Émotion toujours vive lors des hommages à Yves Tual, 40 ans après la mort du jeune homme de 17 ans à Boulou-Paris. C'était pendant les événements en 1985. Après 2h30 à nager en pleine nuit dans le lagon, un homme de 60 ans est secouru par une vedette de la SNSM. Récit d'un sauvetage exceptionnel coordonné hier soir par les secours en mer et qui a permis d'éviter un drame. À Lifou, les nombreuses animations ont marqué la journée pour les festivités de l'Ouachila 3000 avec des visiteurs venus à cette occasion. Dans le Pacifique, le Vanuatu se prépare à retourner aux urnes pour des élections générales après la dissolution du Parlement vanuatais en novembre dernier. À l'actualité nationale, le gouvernement Bayrou planche toujours sur le prochain budget de l'État. L'exécutif veut éviter la censure. Le sport du rugby, Toulouse défiera les Sharks en Afrique du Sud pour le compte de la Champions Cup. Des retrouvailles pour certains tricolores contre une partie de l'équipe des Springboks. Et puis les basketteuses entamaient dès aujourd'hui les sélections pour former une équipe de Calédonie avec comme objectif la Mélanésiam Cup et les Jeux du Pacifique de 2027. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend. Cérémonie très forte en émotion ce matin à Boulou-Paris. Une cinquantaine de personnes s'est retrouvée dans le centre du village pour commémorer les 40 ans de la mort d'Yves Tual. Yves Tual, assassiné sur la propriété familiale à Nassira. C'était le 11 janvier 1985, Lionel Sabot.
Le 11 janvier 1985, alors que la Nouvelle-Calédonie traversait l'une des pages les plus sombres de son histoire, cette période que l'on appelle pudiquement les événements. Ce matin, et comme tous les 11 janvier, depuis plusieurs années, plusieurs dizaines de personnes se sont donc retrouvées dans le silence et le recueillement pour se souvenir, ou plutôt pour ne jamais oublier. Une cérémonie particulière cette année dans le centre du village, sur une petite place qui porte désormais le nom d'Yves Tual. Une plaque portant le nom de cet enfant de la commune a été dévoilée par Hervé, le papa d'Yves, et le maire de la commune, Pascal Vittori.
Yves nous rappelle que la vie est précieuse, qu'elle mérite d'être vécue pleinement, avec passion et détermination. Il nous enseigne que la lutte pour le respect et pour la paix est un chemin long et difficile, mais que chaque pas en avant est une victoire. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'une société plus respectueuse. En cet instant solennel, levons nos cœurs et nos esprits pour Yves Tual, que son nom résonne comme un chant d'espoir, un cri de ralliement pour ceux qui croient en un avenir où la paix et le respect prévalent. Repose en paix, cher Yves. Ta vie, bien que trop courte, continue d'inspirer des générations à venir. Ensemble, nous porterons ton héritage et nous ferons vivre ton rêve. C'est pour cela qu'aujourd'hui et pour les années à venir, cette place, au-delà de ce monument, portera ton nom, Yves.
Et après avoir dévoilé cette plaque, c'est Hervé Tual, le papa d'Yves, qui a pris la parole, comme il le fait chaque année. Des mots simples, mais très forts, presque 8 mois, jour pour jour, après le début, le 13 mai 2024, de ce que l'on appelle avec pudeur les émeutes, l'insurrection.
40 ans déjà qu'Yves nous a quittés de la manière la plus tragique et odieuse que l'on ne peut imaginer. Je suis sûr qu'Yves aurait fondé une famille et qu'il aurait des enfants. Ces enfants, comme tous les enfants de ce pays, auraient et ont le droit d'y vivre dans la paix et la sérénité. Malheureusement, je ne sais plus si cela peut toujours être possible. Quand, souvenez-vous, il y a un an, à cette même place, je souhaitais que l'on ne revoie plus ce que l'on a connu en 1985. Je me suis bien trompé, car le 13 mai, tout basculé. Notre beau pays a été détruit.
Des interrogations dont les mots d'Hervé Tual ce matin au cœur de Boulou-Paris, des interrogations auxquelles le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, enfant de la brousse, lui aussi, comme Yves Tual, a souhaité répondre.
Il y a beaucoup de gens pessimistes comme toi aujourd'hui, Hervé.
Je vais te dire une chose, moi je suis ni pessimiste ni optimiste. Je me bats et on se bat. On n'a que ça à faire. Et c'est au-delà de la question de la Calédonie française ou pas. Que cette île, elle soit française ou non, c'est comment on vit ici qui compte. C'est quel est le modèle de société dans lequel on veut vivre. Et ce modèle de société ne peut être assis sur la haine de l'autre et sur la volonté de détruire une partie de la Nouvelle-Calédonie. Notre ligne de conduite, elle est là. Ni optimiste, ni pessimiste, mais juste l'envie de résister, de se battre, de mettre en avant ceux qui veulent construire avec nous. Je considère qu'il y a un avenir en Nouvelle-Calédonie. On va non seulement reconstruire, mais on va rebâtir différemment. Et on finira par écrire l'histoire que ceux qui ont détruit auront payé et que ceux qui auront construit auront gagné. Et on le doit à tous ces Calédoniens qui y croient encore.
Donc Hervé, tiens bon. Tiens bon parce que nous, on tient bon.
Et parmi les personnes présentes ce matin à Bouloupari, la famille, parents et alliés d'Yves Tuelle, mais aussi donc plusieurs représentants politiques, Gilles Brial pour la province sud, Virginie Rufnacht pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi Alcide Ponga, le président du gouvernement, qui s'exprimait pour la toute première fois officiellement en public depuis son élection il y a quelques jours.
Alors que nous nous souvenons de ces événements tragiques, nous devons réaffirmer notre engagement collectif à ne plus jamais reproduire de telles violences. Notre diversité doit être notre force et non pas notre faiblesse. C'est seulement ainsi que nous pourrons honorer la mémoire de toutes ces victimes et bâtir une Nouvelle-Calédonie unie et prospère. Je tiens à rendre hommage à Pierre Frogier qui a initié ce moment de recueillement il y a plusieurs années de cela. Son engagement pour la paix et la réconciliation a ouvert la voie à ce dialogue essentiel entre nos communautés. En ce jour solennel, prenons ensemble l'engagement de faire vivre la mémoire d'Yves et de toutes ses victimes, non pas comme un symbole de division, mais comme un appel à l'unité.
La place Yves Tuelle a donc été inaugurée ce matin. Elle se trouve non loin de la mairie de la commune, en bordure de la RT1. Une place sur laquelle on trouve une stèle en hommage à cet enfant de la commune, parti beaucoup trop tôt et dans des conditions qui auront marqué l'histoire avec un grand H de la Nouvelle-Calédonie. C'était il y a tout juste 40 ans, le 11 janvier 1985.
Une intervention des secours en mer hier soir pour retrouver un homme tombé dans le lagon. Il avait chuté d'un bateau entre le Faramédé et Nouméa, un navire de plaisance qui avait contacté le COSNC vers 20h20 pour signaler cette chute. Un important dispositif a été déclenché avec plusieurs navires qui ont quadrillé le secteur pour tenter de le retrouver. C'est finalement la vedette Nautil des bénévoles de la SNSM qui a réussi à localiser le naufragé en pleine nuit. Jean-Philippe Volmer, le responsable de la station SNSM de Nouméa.
La vedette de sauvetage Nautil et son équipage ont été engagés sur une recherche d'hommes à la mer dans le secteur de Quatre Bancs de l'Ouest. Un homme à la mer qui était tombé d'un navire qui faisait route du Faramédé jusqu'à son port d'attache très rapidement. Les recherches ont commencé avec un équipage qui est formé et aguerri à ce genre de situation. La Nautil a rejoint un dispositif déjà bien en place qui était composé de beaucoup de navires sur zone. Les recherches sont avérées fructueuses après avoir débuté ce qu'on appelle les patentes de recherche puisqu'on a pu détecter l'homme qui était tombé à la mer du fait d'une vigilance accrue et d'une veille auditive et visuelle sur le plan d'eau. Une fois au contact de la victime, on a pu effectuer des manœuvres de recueil de naufragés à bord de Nautil et on l'a pris en charge sur le plan médical pour faire un bilan. On s'est aperçu que la victime était en hypothermie légère, qui nécessitait une coordination avec les équipes du SAMU. Et on a pu remettre la victime, une fois checkée, à sa famille en bonne forme. C'était surtout un soulagement, puisque ça faisait 2h30 qu'il était dans l'eau à essayer de rejoindre un point à proximité de son lieu de chute à la mer. C'est une opération qui est assez exceptionnelle, parce que de mémoire de sauveteur, on est souvent engagé sur des opérations de phare, et rares sont les opérations qui ont un dénouement aussi heureux. Et c'est le sens de l'engagement de tous nos bénévoles. C'est effectivement pour nous une très belle récompense que d'avoir pu sauver une vie humaine la nuit dernière.
Un drame évité de peu donc, une intervention qui a permis de mettre en lumière la chaîne de secours qui s'est spontanément déclenchée pour pouvoir retrouver ce naufragé en pleine nuit. Nicolas Chomard, le directeur du Centre de coordination de sauvetage maritime de Nouvelle-Calédonie.
C'est assez remarquable parce qu'effectivement les opérations de recherche d'hommes à la mer sont assez rares, de nuit encore plus, et les chances de retrouver de nuit sont quand même souvent assez faibles. Donc une très belle opération, Nautil recueille la victime et le dépose ensuite à Nouméa. Le fait qu'on fasse un message VHF Mayday et que les gens la veille a servi à ce que les navires qui étaient sur zone se déroutent, répondent à l'appel du COS. Quand vous partez comme ça sur le début de recherche, vous savez pas combien de temps ça va durer. Donc le fait que cette solidité des gens de mer, encore une fois, ait joué à plein a contribué au succès de l'opération, puisque l'effort de recherche, c'est quand même un travail collectif. SNSM Nautil, vous allez l'envoyer dans un secteur parce qu'il y a un autre secteur qui a été fait par un autre navire. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a eu la pilotine des pilotes qui étaient aussi engagés, qui étaient là. On a eu un catamaran professionnel qui s'est dérouté aussi. Voilà, un certain nombre de navires qui sont déroutés. Et la SNSM, ils ont été, comme d'habitude, très réactifs, extrêmement réactifs et très professionnels. Et qu'on avait d'ailleurs, pour le début des recherches dans la zone qu'on avait fixée, désigné comme coordonnateur sur zone. Et ensuite, ils sont tombés sur la personne assez rapidement quand ils ont débuté les recherches dans la zone de recherche fixée.
Nicolas Chaumard, le directeur du COSNC. Le naufragé, âgé d'une soixantaine d'années donc, était en état d'hypothermie légère après avoir nagé plus de 2h30, mais il était sain et sauf. Et puis une intervention dans un tout autre domaine cette fois, au Mont Cogui cet après-midi. Une famille de 5 personnes s'était perdue sur le site et a dû faire appel aux secouristes. Une patrouille de gendarmes s'est rendue sur zone en activant un dispositif de géolocalisation pour retrouver les randonneurs. Ils ont pu être retrouvés sans problème.
RRB 17h56.
Les délais de livraison rallongés pour le fret postal géré par l'OPT. Dans un communiqué, l'Office déplore le fait de subir encore les conséquences des émeutes de mai 2024. Charlotte Coulson.
Des perturbations persistantes dans l'acheminement du fret postal, conséquence directe de la crise de mai 2024, peut-on lire dans ce communiqué de l'OPT. Les difficultés décrites concernent majoritairement l'import depuis la métropole et la Nouvelle-Zélande. Plusieurs tonnes de colis postés depuis l'Europe entre novembre et décembre sont restées bloquées à Paris-Charles de Gaulle faute de transport aérien. 10 tonnes ont exceptionnellement été envoyées par voie maritime et devraient arriver le 30 janvier. Même problématique pour les produits en provenance de Nouvelle-Zélande. Les vols Air New Zealand vers la Calédonie sont suspendus depuis juin 2024. 2 tonnes de colis ont donc été envoyées par transport maritime et attendent d'être dédouanées. En plus du retard, c'est aussi la perte de colis que déplore l'OPT qui devait être envoyé vers l'Australie. Un accident lié encore une fois aux perturbations des lignes aériennes. L'Office essaie toujours de localiser les objets postaux affectés. Les équipes de l'OPT indiquent s'engager à traiter rapidement le fret postal dès son arrivée sur le territoire. Les clients peuvent suivre l'avancée des colis sur la page Actualité fret postal sur le site internet de l'OPT.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Dans le reste de l'actualité, c'est un succès pour la 25e édition de la fête Luetchila 3000, célébrée aujourd'hui à l'IFU. La matinée était consacrée au partage et aux rencontres. Plusieurs représentants des institutions étaient présents, ainsi que le général Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Après un repas partagé, l'après-midi était plus festif et a rassemblé des touristes comme des habitants de l'île. Satisfaction des organisateurs. Ruben Roahewe est le membre du comité d'animation de cette fête.
Le public a répondu présent, assez nombreux quand même, pour une petite journée. Le public a pu suivre les belles prestations produites par les troupes de danse. On est satisfait de la petite journée que l'on a organisée. Le but, c'était de rassembler déjà la population de la tribu, de nos deux tribus, mais aussi de faire en sorte que ceux qui viennent passer avec nous la journée puissent passer une belle journée ici. On a eu un bon retour et on espère que l'année prochaine, on pourra retourner au même format, mais avec de nouvelles choses.
La fête qui continue en musique jusqu'à 19h ce soir et le rendez-vous, vous l'avez entendu, est déjà donné pour une 26e édition l'année prochaine. Demain, sur la Grande Terre, ce sera déjà le retour du célèbre marché de Mamie à Farino, l'événement phare de la commune de la côte ouest, toujours très prisé des touristes et pour le plus grand plaisir des producteurs locaux et des artisans qui profitent de ce coup de projecteur mensuel sur l'esplanade de la mairie. Ce sera donc la première de l'année. Les étals devraient être bien fournis, nous a dit Ghislaine Harley, la responsable du marché de Mamie.
Comme il a plu, la saison n'a pas arrêté. Il y a quand même encore pas mal de légumes, pas mal de produits de saison. Il y a des mangues. Il y aura un peu de tout. Hein. Il y aura encore de l'artisanat. On a un peu de tout. Il y aura bien sûr des légumes, des produits vivriers, encore toujours du miel et de la vanille sur Farino. Et puis, voilà, disons, on va dire des produits habituels. Quoi. Nous avons des stands un peu de partout. Hein. On n'a pas des stands que de la région. Hein. Donc, on a quand même une bonne diversité de produits. On trouve toujours de quoi faire ces petits achats et trouver des produits originaux.
La rentrée pour le marché de Mamie à Farino, ce sera donc demain matin sur l'esplanade de la mairie de Farino. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Depuis aujourd'hui, un nouveau jeu chance est lancé. Vous avez jusqu'au 7 février pour tenter de gagner un séjour à l'hôtel de Poé, ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lago du monde avec Capu LM. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow, tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif. Un séjour offert par l'hôtel de Poé. Et vous profiterez également de 2 vols en ULM offerts par Capu LM. Pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer chance au 40-20, c'est 371 francs par SMS. Le tirage au sort aura lieu le 7 février à 14h sur Radio Rythme Bleu. Il n'y a pas de jour sans jeu. Au chapitre de l'environnement, une sortie pédagogique au parc de la Dimbéa. Demain, les associations X-Graines et Dimbéa Rivière Vivante organisent une randonnée collecte de graines. Le but, découvrir les espèces végétales efficaces pour la restauration écologique des sites dégradés. Charlotte Coulson.
Oui, une sortie familiale et ludique, mais attention, la collecte est encadrée, réalisée avec des bénévoles expérimentés. Il ne s'agit pas pour les visiteurs du parc de ramasser n'importe quelle graine. Au contraire, l'activité permet avant tout de faire de la prévention. C'est le message porté par Nicolas Rinck, bénévole à l'association X-Graines.
C'est une sortie un peu découverte avec quelques bénévoles et quelques gens du public. Et puis, du coup, ça va permettre de comment reconnaître les plantes, comment aussi les collecter, les conserver. Et puis aussi un peu tout ce qui concerne la réglementation autour de ça, puisqu'il y a des réglementations qui encadrent, on est dans une aire protégée, la collecte, il ne faut pas la faire n'importe comment, donc ça permet de sensibiliser un peu les gens à ces méthodes. Parce qu'avant de restaurer, il faut aussi protéger les milieux. On a vu le grand incendie du Sud, c'est une vraie catastrophe écologique. Donc vraiment, la restauration, c'est ce qui vient après. Le premier geste qu'il faut avoir, c'est déjà à protéger ces milieux. Donc c'est avant tout protéger, et ensuite, sur les zones qui ont été endommagées, on va pouvoir mener des techniques comme celle-ci de restauration.
Et justement, connaissez-vous les Tetraria commosa ou les Alphytonia? Sous ces noms compliqués se cachent en réalité des plantes assez communes que les participants apprendront à reconnaître demain. Des espèces ciblées, utiles pour le reboisement du maquis minier, car c'est bien le but de la sortie organisée par X-Graines et Dimbéa Rivière Vivante, récolter des graines qui serviront aux futures opérations de replantation du parc. On retrouve Nicolas Rinck.
Il y a des centaines de plantes d'espèces différentes du maquis. Donc nous, celles qui nous intéressent, en fait, c'est surtout des espèces très résistantes, celles qui sont capables de repartir dans des milieux difficiles une fois que les terres sont érodées, quand il y a eu des dommages environnementaux. Ben, c'est ces plantes-là qui sont super résistantes, qui arrivent à s'implanter dans des zones où il fait très chaud, où il n'y a pas beaucoup d'eau, etc. Et c'est les premières à s'installer. Donc en fait, on les connaît. Et donc c'est celles-là qu'on récolte en priorité parce qu'elles vont permettre de relancer la dynamique de l'écosystème.
Et le rendez-vous est donné à 8h demain au parc Fayard. Les randonneurs sont invités à ramener un déjeuner et le retour est prévu dans l'après-midi.
Merci beaucoup Charlotte Coulson. Il est 18h, passé de 3 minutes. Une page de publicité dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et dans le monde, et notamment les élections générales qui se préparent au Vanuatu, à peine 3 semaines après le séisme meurtrier qui a touché l'archipel.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, retrouvez toute la magie du groupe Pink Floyd le temps d'une soirée unique. Another Pink Experience met un point d'honneur à interpréter fidèlement les immenses compositions telles que Dark Side of the Moon, Comfortably Numb, Wish You Were There, The Wall et bien d'autres encore. 8 musiciens, chanteurs et chanteuses pour offrir aux fans inconditionnels de Pink Floyd l'occasion de revivre durant 2 heures leur univers musical. Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Billetterie sur ticket.nc. Pré-vente 2600 francs, sur place 3000 francs.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite du journal avec vous, Michael Juneski.
L'actualité dans la région Pacifique. Au Vanuatu, des élections générales auront lieu en milieu de semaine prochaine pour renouveler le Parlement vanuatèque. Le président de la République, Nikenike Vurubaravu, a dissous fin novembre sur recommandation du gouvernement du Premier ministre sortant, Charles Salouaï. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
217 candidats vont briguer les 52 sièges à pourvoir dans la nouvelle Assemblée. Tout comme lors des précédentes élections, les formations politiques dominantes sont le Vanuatu Party, l'UPM ou Union des partis modérés, le Parti des chefs, le Mouvement de réunification pour le changement, le Parti Terre et Justice et le Parti du développement rural. Foule de candidats dits indépendants ou sans étiquette se sont également mis en lice, tout comme le sont les anciens premiers ministres Mona Karkasses, Bob Lauman, Ismaël Kalsakao et bien entendu le chef du gouvernement sortant, Charles Salouaï. La campagne électorale prendra fin le 13 janvier à minuit et l'ouverture des bureaux de vote est toujours prévue pour le 16 au matin. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
L'actualité nationale à Bercy, c'est la fin d'une première semaine de consultation pour construire le prochain budget de l'État. Le ministre de l'Économie et des Finances, Éric Lombard, salue l'esprit de responsabilité et de transparence des différents partis reçus depuis lundi dernier. Une synthèse doit être transmise à Matignon au Premier ministre François Bayrou. Reste à savoir vers qui le gouvernement compte se tourner pour éviter la censure. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Petit à petit, Éric Lombard semble choisir la gauche comme un nouvel allié. Le nouveau ministre des Finances a rencontré à plusieurs reprises le Parti Socialiste, les écologistes et les communistes cette semaine, contre seulement une réunion avec le Rassemblement National qui ne s'est pas très bien passée. Le parti de Jordan Bardella reste sur sa faim, selon son porte-parole Sébastien Chenu. Le député du RN Jean-Philippe Tanguy accuse même François Bayrou et le Parti Socialiste de sceller un faux accord politique.
Moi j'appelle à la vigilance des Françaises et des Français sur ce qui se passe. Il est évident que la suspension de la réforme des retraites ne serait qu'un artifice, un nouveau mensonge des socialistes et de la Macronie pour gagner du temps, pour empêcher temporairement une censure. Et tantôt, dès que ce budget serait passé, évidemment il n'y aura rien sur les retraites.
En attendant, la gauche espère bien obtenir cette suspension de la réforme des retraites. Nous pouvons obtenir un accord de non-censure, veut encore croire un député socialiste. Alors, pour tenter d'arriver à un compromis, les négociations avec Bercy vont continuer jusqu'à lundi soir.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. À l'international, la France hausse le ton et le ministre des Affaires étrangères réagit après l'expulsion ratée d'un influenceur algérien vers son pays d'origine. Si l'Algérie continue l'escalade, la France devra riposter, affirme Jean-Noël Barrot, qui cite notamment la réduction du nombre de visas délivrés ou encore la baisse de l'aide au développement en Algérie comme possible mesure de rétorsion. L'Algérie cherche à nous humilier, avait déclaré plus tôt le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Dans ce contexte, un sondage de l'Institut CSA pour CNews Europe 1 et le Journal du Dimanche révèle que 72% des Français estiment que la France doit geler les avoirs des dignitaires algériens qui résident en France. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal défend à son tour de son côté la dénonciation de l'accord de 1968 qui confère aux immigrés algériens un statut particulier en France.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou Paris, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
À l'actualité dans le monde, Los Angeles toujours face à un incendie ravageur qui a déjà fait 10 morts et détruit plus de 10 000 bâtiments. La Cité des Anges ressemble à un théâtre de guerre, selon les mots mêmes du président américain Joe Biden. Le point avec Caroline Baudry pour Europe 1.
15 000 hectares dévorés, la superficie de la ville de Nîmes ravagée par les flammes. Vue du ciel, il ne reste que des squelettes en ferraille en lieu et place de somptueuses villas face à la mer. Rue après rue, des zones fument encore. Selon les services d'incendie californiens, 10 000 bâtiments sont détruits. Cela me fait penser à une scène de guerre, a déclaré le président américain Joe Biden.
Avec des bombardements où l'artillerie fait exploser des cibles sans aucune raison. En d'autres termes, vous avez ce feu qui s'emballe, qui brûle tout, et trois maisons qui vont bien. Des parties entières de la ville ont été rasées.
De nombreuses personnes manquent à l'appel, alors le bilan humain pourrait s'alourdir. Selon lui, 100 000 personnes ont pour ordre d'évacuer. Le coût des dégâts est estimé à plus de 130 milliards de dollars.
Caroline Baudry pour Europe 1. Il est 18h, passé de 9 minutes. Une dernière pause dans ce journal avant de voir tout le sport.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
Et à la une du sport, du rugby, Toulouse va retrouver la Champions Cup, la troisième journée des phases de poule de la compétition internationale des clubs qui emmènera le stade toulousain sur le terrain de Durban pour défier les Sharks. Dans leur effectif, une partie des Springboks, l'Afrique du Sud, qui avait mis fin au rêve des Bleus lors de la Coupe du Monde de 2023. En face, un contingent de tricolores qui évolue dans les rangs de Toulouse. 8 joueurs du 15 de France, dont le capitaine Antoine Dupont, qui le conseille. Certains souvenirs pourraient remonter à la surface, mais les enjeux ne sont plus les mêmes.
Sûrement qu'il y aura des souvenirs qui remonteront, mais aujourd'hui le contexte est complètement différent. Il n'y a pas d'histoire de revanche par rapport à ça. Le match, on l'a perdu, on est aujourd'hui dans un tout autre contexte, mais inconsciemment, il y aura sûrement une petite part de nous qui y pensera.
Les Sharks face à Toulouse, match à suivre à partir de 2h15 la nuit prochaine pour le compte de la poule A. Dans la même poule et à la même heure, l'Union Bordeaux-Bègles sera sur le terrain des Anglais d'Exeter. Dans la poule C, à 4h30, le Stade français affrontera les Anglais de Northampton et à 7h, Castres recevra les Blue Bulls. Sur les terrains de football, la 17e journée de Ligue 1. Après les matchs nuls du FC Nantes d'Antoine Comboiré contre Monaco, 2-2 et d'Auxerre face à Lille, 0-0, 3 nouvelles rencontres à suivre ce soir et demain matin. Brest-Lyon à partir de 3h, Reims-Nice dès 5h et enfin Rennes-Marseille, coup d'envoi à 7h05, heure de Nouméa. Les sports mécaniques sur le Dakar 2025. Après une journée de repos, les pilotes se sont élancés sur la 6e étape, longue de 829 km, dont 606 km de spécial. Dans les principaux classements, Adrien Van Beveren, le Français, est en tête de la catégorie moto, au guidon de sa Honda. Dans la catégorie auto, c'est l'Américain Seth Quintero qui est leader sur Toyota. Autre aventure, en voile, sur le Vendée Globe, Charlie Dalin toujours en tête pour quelques 159 000 nautiques de mieux que Johan Richomme. Ce dernier n'abdique pas et réduit l'écart d'heure en heure en approche de l'archipel des Açores. Le leader n'est plus qu'à 2200 km de la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne après 61 jours et 18 heures de course. Et puis, dans le Pacifique du tennis, avec le vétéran Gaël Monfils qui remporte son 13e titre sur le circuit mondial. À l'âge de 38 ans, il a gagné la finale de l'ATP 250 d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Une victoire contre le Belge Zizou Bergs 6-3, 6-4. De quoi engranger de la confiance avant de débuter l'Open d'Australie la semaine prochaine.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Et on en vient au sport en Calédonie. Et c'est déjà la fin des vacances pour les basketteuses. La Ligue calédonienne a lancé ses sélections féminines aujourd'hui. 22 sportives étaient réunies au hall de Boulari pour débuter leur entraînement. Charlotte Coulson.
Et l'objectif était clair cette année, monter une équipe compétitive pour les prochaines échéances, à savoir la Mélanésienne Cup 2025. Et si elles sont qualifiées, les Jeux du Pacifique à Tahiti en 2027. Pendant 2 mois au moins, elles seront accompagnées de leur entraîneur, Félix Kilikili. Ce matin, il était agréablement surpris de l'engouement des joueuses sur le terrain.
Là, on a ouvert à tout le monde, à toutes celles qui jouent au basket en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 22 là. Franchement, surpris parce qu'on sait que surtout cette période-là, tout le monde prend leurs vacances. On voit que les filles sont motivées à reprendre le basket et voilà, à faire partie de cette sélection. Franchement, sur 2 mois, on va travailler pour qu'ils reprennent la condition physique. Déjà, gagner en condition parce qu'après, l'entraînement va être de plus en plus difficile. Pour pouvoir aller rivaliser avec les autres du Pacifique. Nous, on va être plus axés sur la défense. Donc, qui dit défense, ça veut dire une bonne condition physique. Vu l'engouement qu'elles nous montrent, ça veut dire qu'elles ont envie. Et donc, je pense que ça va le faire.
Et effectivement, beaucoup de détermination pour les 22 basketteuses présentes à l'entraînement ce matin. Des doutes aussi, parfois, mais cela n'entache pas leur motivation à progresser. Elles gardent en tête leurs objectifs bien précis.
Ben, ça fait plaisir d'être là, de se retrouver. Après les fêtes, c'est toujours un peu difficile de retrouver son souffle et de travailler tout ce qui est cardio, etc. Mais un plaisir, évidemment, de travailler cet objectif avec les filles.
On reprend les entraînements de sélection et c'est plutôt pas mal.
C'est quoi tes objectifs, toi, pour cette année ?
Ça serait de potentiellement participer à la Mélanésian Cup.
Essayer d'être sélectionnée dans les sélections, vu que c'est pas ma catégorie, essayer d'être dans la sélection déjà.
T'es plutôt confiante ?
Non, parce que y a du gabarit et du niveau, donc je pense qu'il y a quand même un level au-dessus dans les catégories du dessus.
Tu peux encore t'améliorer ?
Oui, je pense.
Et la sélection ne fait que commencer. Pendant 2 mois, les joueuses s'entraîneront dans l'espoir à terme d'être qualifiées pour les Jeux du Pacifique de 2027.
Il est 18h passé de 15 minutes. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les prévisions météo, c'est avec vous Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous, et eh bien pas de vigilance particulière tout d'abord pour cette nuit sur le nord-est, la pointe nord et aussi sur le nord des Loyautés. Des averses seront possibles sous un ciel nuageux. Ailleurs, le temps sera sec et la nuit bien étoilée. Le vent faiblira, sur l'ouest il deviendra variable faible. Sur les autres régions, il s'établira de secteur est entre 5 et 10 nœuds et les températures seront stables et fraîches pour ce soir avec la saison entre 16 et 19 degrés dans les terres et 23 à 24 degrés sur le littoral. Demain matin sur le nord de la côte est et les Loyautés, le ciel restera souvent nuageux avec parfois une averse. Sur les autres régions, le temps restera très ensoleillé. Sur l'ouest, des brises s'établiront entre 5 et 10 nœuds en fin de matinée et ailleurs, le vent d'est-sud-est soufflera entre 5 et 10 nœuds.